Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire une émission, de vous proposer une émission autour de Jean-Claude Grünberg, en français Jean-Claude Grimbert. Jean-Claude Grimbert, qui est cet auteur dramatique, qui a exercé de nombreux métiers, dont celui de tailleur, milieu qu'il va prendre pour cadre dans sa pièce L'Atelier. Il rappelle d'ailleurs lui-même avoir commencé sa carrière comme apprenti tailleur aux côtés du romancier André Schwarzbart, le dernier des Justes, et du réalisateur et écrivain Robert Bobert, Quoi de neuf sur la guerre, par exemple. Jean-Claude Grimbert découvre le théâtre en étant comédien dans la compagnie Jacques Fabry. Il devient écrivain en signant en 1968 une pièce, Demain, une fenêtre sur rue, puis des textes courts, comme Rix, qui sera joué à la Comédie-Française. Il écrit sur la disparition de son père dans les camps d'extermination nazis, Maman revient pauvre orphelin, et le triptyque Les trois pièces, Dreyfus en 1974, L'Atelier en 1979 et Zone libre en 1990, ainsi que d'autres récits, Mon père, inventaire en 2003 et La plus précieuse des marchandises, un conte, en 2018. Je reviens à L'Atelier un instant pour préciser que cette pièce a connu un succès quasiment planétaire, qu'il a reçu en 1999 le Molière de la meilleure pièce du répertoire et que, également, Jean-Claude Grimbert est scénariste puisqu'il est l'auteur du scénario du film Des années sandwich, qu'il a écrit le dialogue du film de François Truffaut Le dernier métro, en fait, il est co-dialoguiste avec Truffaut et Suzanne Schiffman. Il a également travaillé avec Costa Gavras, avec Marcel Bluval, avec Robert Enrico, et pour la télévision, également avec Marcel Bluval, Jacques Van Steen et Jacques Otsmegin. Jean-Claude Grimbert reçoit le Grand Prix de l'Académie française en 1991, le Molière du meilleur auteur dramatique en 91 pour Zone libre et, comme je l'ai dit, pour L'Atelier. Mais il ne se contente pas de pièces pour adultes. Jean-Claude Grimbert est également auteur pour la jeunesse. Il écrit, par exemple, Le petit violon, une pièce de théâtre destinée aux enfants. Jean-Claude Grimbert est également un auteur de littérature de jeunesse, figurant sur la liste officielle des œuvres destinées au cycle 3, édité par le ministère de l'Éducation nationale. Et tout le répertoire des pièces de Jean-Claude Grimbert figure au répertoire de la Comédie française. Alors aujourd'hui, j'aimerais évoquer pour vous le récit intitulé Jacqueline, Jacqueline, le dernier livre de Jean-Claude Grimbert, qui est donc édité aux éditions Stock. Jean-Claude Grimbert donc a écrit ce récit qui est en fait une lettre d'amour destinée à Jacqueline, son épouse, disparue en mai 2019. Une longue lettre divisée en chapitres qui va mêler souvenirs et imaginaires, qui va évoquer des événements rêvés ou vécus, qui va superposer la gravité, la légèreté, qui conjugue le rire et les larmes. Une lettre qui tente de faire revivre la bien-aimée pour lui confier ce que l'auteur n'a pas pu lui exprimer de son vivant, l'importance qu'a représenté l'amour de Jacqueline dans l'écriture de ses livres. Ainsi, par exemple, ce très très court extrait lorsque Jean-Claude Grimbert vient de dire à la marchande de journaux que Jacqueline n'est plus. Elle se cache le visage derrière ses deux mains largement ouvertes, à la japonaise, façon Kurosawa. elle pleure, cachant sa face honteuse, secouant ses épaules tremblantes. Moi, je sors, la laissant seule, en larmes, derrière son comptoir. Je quitte le tabac comme sortent les justiciers de Western, faisant claquer les portes du saloon, fier d'avoir abattu un complice des meurtriers de sa femme bien-aimée. Je range mon colt, j'enfourche mon alezan, souple et serein, fier du devoir accompli. Je suis Burt Lancaster. Te rappelles-tu, chérie ? Pour te séduire, je te montrais mes dents à brûle-pourpoint et je te demandais « À qui je te fais penser ?» Immanquablement, tu me répondais « À Peter Lorre dans M le maudit ». Et pour tout te dire, j'étais flattée de ta réponse. Pourtant, je ressemblais bien à Burt Lancaster. Pire, j'étais Burt Lancaster et toi, tu ne le voyais pas. Personne ne le voyait. Même mon cheval ne le voyait pas. Là, nous sommes vraiment dans cet humour indéfectible de Jean-Claude Grimbert qui ne peut pas s'empêcher, même au cœur d'un moment extrêmement tragique, puisque cette marchande de journaux, buraliste, est extrêmement secouée d'apprendre cette terrible nouvelle. Et Jean-Claude Grimbert rebondit. La lettre, le livre, le récit est aussi adressé à ceux qui n'auraient pas eu la chance de croiser ou de connaître Jacqueline. Le lecteur éventuel sera immédiatement concerné par la perte, sera affecté par l'absence, sera touché par la force de la relation entre l'auteur et celle à qui il s'adresse, disparue après 60 ans d'une vie commune. Je cite ici de larges extraits d'un article que Jean Cohn, ami de Jean-Claude Grimbert et auteur de « Le théâtre de Jean-Claude Grimbert, mise en pièce de la question juive », paru aux éditions du Bord de l'eau en 2016. Jean Cohn a écrit une très belle recension du livre « Jacqueline, Jacqueline », dont je vous livre ici quelques lignes. C'est autant la profondeur et la richesse de l'amour partagé que la grâce et l'authenticité de l'écriture qui permettent au destinataire, au second degré qu'est le lecteur, de trouver sa place dans la narration sans pour autant se vivre comme un intrus. Il y a beaucoup de délicatesse, beaucoup de poésie pour que les moments de sensualité et de relation la plus intime puissent s'exprimer sans ridicule, sans impudeur. La perte de l'autre, compagnon ou compagne, est toujours un drame pour celui ou celle qui l'a subi. La transmission par l'écriture de la souffrance n'est pas une question d'esthétique, mais de sincérité. Et comme le note Jean-Claude Grimbert lui-même, je le cite, « Ce livre ultra-sensible peut se défaire au moindre incident et ses pages s'éparpiller, rendant ainsi tout ravaudage impossible. » Un voyage à Cabourg, un 15 août. À Cabourg, on perd son temps sans toi. Une fois perdu, on le recherche et on ne le retrouve que pour souffrir. Avec sa Madeleine, Marcel a fait disparaître le bon temps. Madeleine qui, dit-on, n'était rien d'autre qu'une vulgaire tartine beurrée, anoblie par la littérature. Moi, à Cabourg comme ailleurs, je suis la proie de ce temps qui ne veut pas passer. Tout me rappelle toi. Où que j'aille, le chagrin m'assaille. J'étais là avec elle, nous faisions, nous disions, nous pensions, nous rêvions. C'est un chagrin d'enfant, dans un corps de vieillard, un chagrin sournois qui surgit à la faveur de la moindre association de l'idée avec la chose avec le lieu, du lieu avec la personne aimée et qui n'est plus. C'est un chagrin auquel on tient et qui vous tient plus encore, qui envahit votre poitrine sans prévenir à tout moment du jour ou de la nuit, à Cabourg ou ailleurs, n'importe où, là où nous avons été heureux ou malheureux ensemble. Ma Madeleine à moi, c'est toi. L'écrivain préféré de Jean-Claude Grimbert, Joseph Roth, qui est évoqué dans le livre, et qui est devenu aussi l'écrivain préféré de Jacqueline, a écrit un ouvrage, « Le poids de la grâce », ou plutôt, dans la nouvelle version retraduite par Stéphane Penel, « Job, le roman d'un homme simple », dont le titre conviendrait parfaitement pour qualifier le pouvoir de Jacqueline, Jacqueline. Le miracle opéré par le livre, poursuit Jean Cône, se trouve d'abord dans la nécessité, la limpidité et la simplicité de l'écriture. Et ce qui pouvait relever d'un acte pour maintenir vivante la relation d'amour devient un livre témoignage de la condition humaine, celle de la finitude et de son refus, du mystère de l'amour qui accompagne et transcende la douleur de la perte. La magie de la littérature, lorsqu'elle trouve les mots pour dire sans emphase ni artifice, est ce qui permet la transmission de l'émotion, qu'elle soit celle du transport amoureux ou celle de la peine infinie causée par la perte. La relation d'amour entre Jean-Claude et Jacqueline s'est aussi construite par la médiation de l'écriture. Un autre extrait. Chapitre intitulé « Poulidor ». Le couple, dans ses jeunes années, pratique la bicyclette. Et lors d'une de ses aventures à vélo, il rencontre les parents de Poulidor. Parfaitement. Poulidor, c'est un bon garçon, dit la mère de Poulidor. Le père reprend « Un bon garçon pour sûr, mais question vélo, c'est pas copie ». La femme intervenant de nouveau. « Il nous laisse manquer de rien, il nous donne presque la moitié de ce qu'il gagne. »« Il est si gentil, le père. »« Ah, c'est un bon fils, c'est vrai, mais côté vélo, c'est pas... » Ce jour-là, j'ai compris pourquoi Poulidor ne gagnait pas et ne gagnerait jamais le tour. Le tour fut l'un de mes objectifs quand j'étais gamin. Je voulais faire le Tour de France, pas pour le gagner, juste pour le faire. Je le voulais, mais pas au point d'apprendre à faire du vélo. Et depuis cette côte, montée avec les parents de Poulidor, je me suis surpris à me prendre souvent pour Poupou, en pensant à ma maman qui pensait, elle, que je n'arriverais jamais à rien. Elle m'avait, t'en souviens-tu, demandé, alors même que tu étais enceinte et que nous n'étions pas mariés, ce que j'allais faire quand je me retrouverais seule, avec un niard sur les bras. Mais c'est les femmes qui font les enfants, maman. Elle va te laisser tomber. Pourquoi elle restera avec toi? T'es moche, elle est belle. Tu veux rien foutre, elle travaille tout le temps. T'as pas un rond, elle a une affaire qui marche. Pourquoi elle resterait? L'amour, maman. Tu n'as jamais entendu parler de l'amour? Ah, l'amour, toujours l'amour. Elle sourit. Elle savait ce que c'était, l'amour. L'amour ne se mange pas en salade. Et puis, comme auteur dramatique, je fus une sorte de Poulidor. Nous étions tous des Poulidor, je rappelle. Pour nos jeunes auditeurs, que Raymond Poulidor fut un immense cycliste, mais que malheureusement, il n'a jamais réussi à remporter le Tour de France, il a toujours été deuxième. Chaque fois que l'un d'entre nous donnait une pièce à lire, ou plutôt trouvait un volontaire parmi les professionnels débordés acceptant de lire l'une de nos pièces, le retour était garanti. « Ouais, pas mal, mais c'est pas Beckett. » Ce n'était pas Beckett. Ce n'était jamais Beckett, ni Beckett, ni copie. Copie. Mais toi, tu lisais mes pièces la nuit pendant que je dormais, et tu les aimais, tu riais, tu pleurais. Ni Samuel, Beckett, ni Fausto, copie, n'ont eu la chance que j'ai eue. Toujours dans la rubrique nécrologique, section internationale cette fois, on annonce le décès de Kirk Douglas à 103 ans. Tu l'aimais, tu l'adorais, je l'aimais, je l'adorais, et tout. Et comme nous étions fiers, fiers de savoir qu'il était des nôtres, au même titre que Johnny Weissmuller, le premier Tarzan, et Fred Astaire, le merveilleux, de son vrai nom Austerlitz, et Tony Schwartz, dit Curtis, l'autre viking. Oui, nous vivions ainsi, cherchant à savoir qui il était et qui ne l'était pas parmi les plus grands, les phénix, les géants de ce monde. Nous avions tant besoin, après ce déferlement de haine, de crachats, de mensonges, de meurtres, d'humiliations, de ragots, toutes ces années passées à courir, à se cacher, à se faire prendre par la police de notre propre pays pour être livrés aux assassins d'enfants, de mères, de malades, nous avions tant besoin de victoire. Oui, nous sortions le dos plus droit après avoir vu Kirk à cheval ou mis en croix dans Spartacus. Une grande partie de l'œuvre de Jean-Claude Grimbert, au-delà du théâtre, rend compte de l'expérience juive en Europe. Son œuvre est le produit d'une écriture qui, à partir d'événements et d'actions ordinaires, les inscrit dans une histoire faite de douleurs et de crimes. L'émotion, en même temps que la dérision, traverse ses pièces. Cette hybridation, on peut dire, est sa marque artistique. Jacqueline Jacqueline, le livre, fait revivre la question qui a traversé les 60 années d'écriture de l'auteur. Comment honorer la dignité de ceux qui sont morts, assassinés par la barbarie? Comment parler, dit Grimbert, sans crier grâce, sans pleurer, sans colère, sans rage? Ce récit ne se réduit pas à un malheur personnel. Il est en résonance avec le malheur universel qui aujourd'hui, par le biais de la pandémie que nous venons de vivre, de la dégradation du climat, des guerres civiles, des massacres qui naissent ici et là, rendent le monde impuissant devant les injustices. La restitution par l'écriture du dialogue imaginaire qui se poursuit entre Jacqueline et Jean-Claude est le seul moyen, écrit Jean-Claude Grimbert, le seul moyen de faire vivre encore Jacqueline, de la garder au monde. C'est le lecteur qui donne un sens à l'acte d'écriture. Ce livre, que Jean-Claude Grimbert, s'adressant à Jacqueline, appelle « ton livre », ce livre, je le recite, écrit pour toi, que tu ne liras pas, ce livre que l'auteur ne peut ni ne veut achever, parce que l'achever, ce serait définitivement couper le lien avec Jacqueline, c'est par lui que Jean-Claude obéit à l'injonction de Jacqueline. Je cite à nouveau, « Tant que tu parles, tant que tu écris, chérie, tant que tu vis, je vis. Tant que tu penses à moi, je vis. » Et voici quelques lectures de Jacqueline Jacqueline. « Te souviens-tu de notre premier baiser ?» Tel est le titre de ce chapitre. « Te souviens-tu de notre premier baiser ?» Moi ? Comme si c'était hier. Je faisais du cheval. Du cheval, arrête, ne fais pas rire. Mes dents sont mal collées. Mais ne ris pas. Et vous non plus, vous qui tentez de lire par-dessus mon épaule, ne riez pas. Je faisais du cheval, parfaitement. Oh, pas par plaisir. À l'époque, j'avais deux objectifs dans la vie. Ne pas faire comme les autres, pour ne pas devenir comme les autres, et faire comme les autres, pour devenir comme les autres. Mais je m'aperçois que je viens de résumer la situation de tout juif tentant de vivre en diaspora, et même de tout humain cherchant à vivre en société. Bon, bref, je faisais du cheval. Quand vous faisiez du canasson, je n'y allais pas. En plus, je te connaissais à peine, et pour tout dire, je pouvais pas te blairer. Ah ben merci, ça fait plaisir. J'appréciais pas ta façon de débiner les films que tu n'avais pas vus et que nous avions vus. Ok. Donc, un dimanche matin, en plein galop, mon cheval bloque des quatre fers, ce qui a pour résultat de m'envoyer valdinguer au-dessus de sa crinière. Par chance, mes lunettes, elles, restent à cheval sur mon nez. Par malchance, apparente, ma cheville droite ou gauche heurte je ne sais quoi. Résultat des courses, les copains diagnostiquent une entorse, voire une foulure ou même une fracture. Que faire ? Je tiens plus debout. Paul, ouais, ton frère, décide de me rapatrier dans ta tuture, place de la République. Ouais, chez toi. Enfin, chez tes parents. Je me souviens absolument pas de cet épisode, j'étais là. Bah oui, sinon, on fait traverser votre immense appartement sur une seule patte et je me retrouve étalée sur un couvre-lit douillet dans une pièce obscure d'où je peux vous entendre rire, chanter, danser, gueuler. J'ai plus mal, je me sens bien, à ma place, à l'écart, seule. Alors, la porte s'entr'ouvre et, telle une apparition féerique, tu glisses vers moi. J'entrevois d'abord ta poitrine, moulée, dans ton pull noir à col roulé. Je distingue à peine ton visage. Mes lunettes sont sur la table de nuit, j'ai peur de faire un geste pour m'en saisir, craignant de rompre le charme de ton apparition. Eh ben voilà, c'était pas moi. Tu m'interroges de ta voix amicale et grave, ta voix. Tu as mal ? Je fais oui de la tête et je t'offre même une petite grimace de douleur en prime. Tu te penches vers moi, ton pull frôle mon pull et tes lèvres se posent délicieusement au coin de ma bouche stupéfaite. Puis, tel un elfe, tu te reglisses par la porte entr'ouverte tout en m'encourageant d'un regard. Voilà, Voilà notre premier baiser. Bon, dans tes rêves, oui. J'ai jamais fait ça, jamais. Pourquoi j'aurais fait ça? On se connaissait à peine, je te dis. Ouais, je sais. En plus, tu pouvais pas me blairer. Mais moi, je sens encore tes lèvres, tout près des miennes. Premièrement, ça n'a jamais eu lieu. Deuxièmement, ça n'a rien à voir avec un premier baiser. Ça, c'est tout juste à peine un bisou. Oui, mais pour moi, ce bisou fut notre premier baiser. Celui qui m'a donné confiance en moi, ne fût-ce qu'une seconde ou deux. Ce n'était pas un baiser, ça n'a jamais eu lieu, sauf dans ton imagination de malade. D'accord, mais pour moi, c'est le baiser dont je me souviens et me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Et pour clore cette émission et vous donner envie de lire ce récit à la fois poignant, à la fois drôle, qu'est Jacqueline Jacqueline de Jean-Claude Grimbert, voici un dernier extrait. Tu m'as raconté une histoire qui éclaire ton père d'une lumière quasi hugolienne. Lorsque vous avez dû quitter la République, la place, l'appartement somptueux, l'atelier vaste, vous avez trouvé un local commercial rue Saint-Denis. Vous ne pouviez y habiter. L'un des premiers soirs, alors que ton père fermait la porte de ce nouvel atelier, un jeune homme l'aborda et lui demanda si par hasard il n'aurait pas un emploi pour lui. Il arrivait du Maroc, il s'appelait Ahmed. Il était timide. Il fit sa demande respectueusement, mais sans conviction, sans y croire vraiment. Il avait essuyé tellement de refus. Ton père engagea la conversation avec lui sur ce pas de porte, puis l'emmena au café d'à côté. À la fin de la conversation, il posa un trousseau de clés sur la table, près de la tasse de café d'Ahmed, et lui dit « Demain matin, à 8h moins le quart, tu ouvriras l'atelier. » Ahmed ne voulut pas prendre les clés, il n'avait pas où dormir. Il ne savait pas où il serait demain matin à 7h. Ton père lui dit « Dors dans l'atelier cette nuit, demain je te trouverai un logement. » Le lendemain, à 8h moins le quart, Ahmed ouvrit l'atelier de l'intérieur, accueillit les ouvrières. Le soir même, il était déjà installé dans une piaule que ton père lui avait trouvée. Ta mère lui apprit à repasser, et même quelques mots d'yiddish. Et quand elle chantait, en yiddish bien sûr, Ahmed faisait la seconde voix et l'accompagnait en tapant avec son fer sur la table. Aujourd'hui, il vit sa retraite à Agadir avec son épouse et l'une de ses filles. Avec qui chante-t-il en yiddish à Agadir? Grâce à ton père, à ta mère et à toi, j'ai pu jouir moi aussi de la vie dans une famille juive complète, parlant yiddish. Une famille ashkénaze tournée vers la vie, l'avenir et l'espoir. Une famille équilibrée et généreuse. Il suffisait de dire à ton père, il me faut... Aussitôt, il te coupait. Combien? Non, mais c'est pour combien? Même en faillite, même en crise, même en pleine mauvaise saison. Et il y en eut. Même si c'était l'été en hiver ou l'hiver en été. L'argent n'existait que pour faire plaisir. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance d'être ainsi acceptée par toi et les tiens. J'ai eu de la chance dans mon malheur. Et maintenant, injuste retour des choses, j'ai du malheur dans ma chance et un doute au fond de mon cœur. Est-ce que toi aussi, chérie, tu as eu de la chance? Autant de chance que moi? Ah non, décidément, ce ne sont pas les antisémites qui m'ont rendu au fil des ans et des décennies de plus en plus juif. C'est l'amour. Ton amour. Notre amour.